Bienvenue aux Apatrides Anonymes, émission du 3 octobre 2024. Ça commence direct, hein? Pas beaucoup de pubs, Simon, hein?
Ben non.
J'ai dit qu'il fallait pas se faire surprendre.
Donc, on est toujours prêts.
On est toujours prêts. On est en direct des studios de Choc à l'UQAM, évidemment. En direct, donc 18h30 pour ceux et celles qui nous écoutent sur le site en direct, finalement. On va le dire trois fois. Direct, direct, direct. Donc, émission du 3 octobre. Mon nom est Mathieu, je suis accompagné de Simon.
Ouais, que vous avez entendu il y a quelques secondes. Salut.
Salut Simon, bonjour Marie-Ève.
Et bonjour à vous deux.
Ça va bien?
Très bien.
Marie-Ève est à la console pour l'instant. Simon va prendre la parole dans quelques minutes. Mm-hmm. Donc, émission toujours sur les enjeux de racisme, immigration, frontières, droits humains, gros méchants, guerre dans le monde et autres calamités. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler entre autres d'immigration ici, au Québec-Canada, d'enjeux d'immigration. On va parler aussi du durcissement de la forteresse Europe. On va parler de racisme, profilage et corps policiers. Droits de la personne dans le monde. On va parler aussi d'Algérie. On va parler aussi d'Israël-Palestine dans quelques instants. On va avoir 4 pièces musicales aujourd'hui, Simon.
Choix de Mathieu.
Choix de Mathieu, les groupes BCUC. On va avoir aussi Autre part, on va avoir Violence gratuite et No Suicide Act. À noter qu'on était absent il y a 2 semaines, donc on est de retour après 4 semaines. Mm-hmm. C'était nos vacances estivales annuelles à tour de rôle dans les derniers mois. Donc là, ça devrait être pas mal terminé.
On devrait revenir aux 2 semaines de manière régulière.
Si les fêtes, hein, je pense que ça devrait être assez régulier. Donc aujourd'hui, ben, on parlera pas. Peut-être Simon va parler des niaiseries de Legault, on ne sait pas, mais...
Oui.
Ah oui, oui. Okay.
Ben,
OK.
Écoute, je parlais d'immigration au Québec et des niaiseries, les lois, les règlements, donc forcément.
Et je te dis, on s'en sort pas. Quelle semaine de fou là-dessus.
Eh oui.
Au moins, il y a eu le 28 septembre, la journée commémoration pour Joyce. Il y a eu le 30 septembre, la journée nationale réconciliation et vérité. Donc, il y a eu des belles manifestations, des beaux reportages dans les médias, de la bonne information.
Oui, surtout la journée de réconciliation est vraiment de plus en plus présente. Là.
Et bien couverte, de mieux en mieux couverte. Donc, voilà. Fait que je pense que je vais saluer nos amis de Radio Victoria, nos amis qui nous écoutent en balado, et on va y aller avec quelques notes de musique et on commence le contenu. Donc, ben, sujet incontournable dans la plupart de nos émissions depuis 1 an. Israël-Palestine, maintenant, c'est Proche-Orient en général parce qu'on est rendu au Liban, au Yémen, en Iran, un petit peu partout. C'est la débandade complète.
Total.
Ouais, quelques sujets, donc, un peu connexes ou autour. L'Assemblée générale de l'ONU a réclamé le 18 septembre dernier la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens dans les 12 mois. Et a appelé à des sanctions contre Israël, une résolution non contraignante, mais qui a quand même provoqué la colère d'Israël.
What a joke!
Ouais, exactement. C'est bon. Tu suis l'actualité, c'est bien! La résolution fait suite à l'opinion de la Cour internationale de justice qui, en juillet, avait estimé que la présence continue d'Israël dans les territoires palestiniens occupés était illicite et que Israël était dans l'obligation d'y mettre fin dans les plus brefs délais. Le texte adopté par 124 voix pour 14 contre et 43 abstentions, exige également le retrait des forces israéliennes des territoires, l'arrêt des nouvelles colonies, la restitution des terres et propriétés saisies et la possibilité de retour des Palestiniens déplacés à l'étranger, entre guillemets. Elle appelle aussi les États membres à prendre des mesures pour mettre fin aux importations venant des colonies et à la fourniture d'armes à Israël. Et aussi à prendre des sanctions contre les personnes participant au maintien de la présence illicite d'Israël dans les territoires occupés. Le Canada a opté pour l'abstention.
C'est une progression.
Ça dépend. Ils sont déjà abstenus dans le passé, ils ont déjà voté contre, t'as raison. Entre autres parce que la résolution ne faisait, je cite, « aucune mention de la nécessité de mettre fin aux terroristes qui préoccupent Israël en matière de sécurité ». L'ambassadeur Bob Ray a notamment expliqué à l'Assemblée générale que le Canada ne pouvait pas soutenir une résolution dans laquelle une partie de l'État d'Israël est tenue pour seule responsable du conflit. Sans commentaire. Pendant ce temps, le gouvernement du Canada recommande à ses citoyens d'origine palestinienne ou arabe d'éviter de discuter d'opinions politiques en ligne au risque de se faire arrêter s'ils se rendent en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est.
Oui, il faut passer par les points de contrôle israéliens. Donc
exact. Le nombre de points de contrôle israéliens a augmenté dans toute la Cisjordanie, peut-on lire sur le site d'Affaires mondiales Canada. Les individus d'origine palestinienne ou arabe peuvent être soumis à une surveillance accrue, à des détentions, à des arrestations, à des exactions. Ça, c'est Affaires mondiales Canada qui dit ça sur la Cisjordanie. Mais il faudrait pas dire que Israël occupe ce territoire illégalement. Sinon, ben cette semaine, je cite, le Canada reconnaîtra l'État palestinien au moment opportun, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly devant l'Assemblée générale des Nations Unies, parce qu'après les présidents, premiers ministres, c'était les ministres des Affaires étrangères cette semaine.
Quel engagement ferme.
Oui, je la cite. Nous reconnaîtrons officiellement l'État de Palestine au moment opportun, lorsque cela sera le plus propice à l'établissement d'une paix durable et non pas nécessairement comme dernière étape d'un processus de négociation. A-t-elle ajouté? Incroyable, hein? C'est
ça veut rien dire.
Des inepties. En terminant...
Mais je ne sais pas si c'est avant ou après qu'Israël ait complètement détruit le Moyen-Orient.
Oui, c'est ça. Les étapes ne sont pas claires. Hein?
Non.
Son étapisme n'est pas évident. Du côté des groupes de défense ici, ben, des petites nouvelles intéressantes. Le statut d'organisme de bienfaisance du Fonds national juif du Canada a officiellement été révoqué le 10 août par l'Agence de revenus du Canada. Cette décision est le résultat direct des campagnes populaires menées au cours des dernières années, dernières décennies. Comme celle récemment qui s'appelait « Plus d'avantages fiscaux pour l'apartheid ». Le Fonds national juif n'est pas le seul organisme à profiter des avantages fiscaux du Canada pour financer l'apartheid et les crimes de guerre. En avril 2024, Voix juive indépendante Canada et le Mouvement pour une paix juste ont publié une lettre ouverte demandant au gouvernement fédéral d'enquêter sans délai et de révoquer le statut d'organisation comme Mizrachi Canada, qui utilise des fonds fédéraux pour soutenir des unités de l'armée israélienne et des organisations de colons violents en Israël. Sinon, ben, Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient condamnent la montée des groupes d'autodéfense sionistes d'extrême droite au Canada, particulièrement en Ontario, et exhortent les médias à fournir une couverture précise et complète de leurs activités et de leurs idéologies. On les qualifie souvent de groupes de patrouilles de sûreté ou de sécurité, alors que c'est vraiment des organisations d'extrême droite et violentes. Donc, pour aider les journalistes, ces Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient publient un essai sur quatre organisations canadiennes de plus en plus importantes qui prétendent soutenir la sécurité de la communauté juive. Un rapport qui s'appelle « La montée des groupes sionistes d'autodéfense au Canada », qui vise donc « The Jewish Defense League and Israel Now », Magen Erut, J-Force et Jewish Security Network. Donc, voilà pour mon petit bloc Israël-Palestine. Il y avait plus tellement d'autres nouvelles, Marie-Ève et Simon. Simon, droit de la personne dans le monde, c'est dans la même lignée?
Ben oui, j'essaie de faire des liens pas toujours fluides, là, parce qu'on se promène un peu dans toutes les directions. Iran, Pérou, Côte d'Ivoire, Indonésie, quand même.
Ouais.
Alors, on commence avec l'Iran. On soulignait cette semaine le deuxième anniversaire de l'assassinat de la jeune Mahsa Amini par la police des mœurs de la République islamiste, parce qu'on voyait un bout de cheville ou deux de ses cheveux, ce qui avait généré le mouvement Femmes, Vie, Liberté, mais c'est plus vraiment dans les médias, à part pour ce deuxième anniversaire, donc la balloune médiatique avait duré quelques semaines avant d'éclater, même si plusieurs ONG, dont Human Rights Watch ou Amnesty International, continuent régulièrement de sonner l'alarme sur la situation catastrophique en Iran. On parle de la répression qui a doublé d'intensité depuis 2 ans, de guerre contre les femmes et par ricochet de leurs alliés et de leurs proches, de leurs familles. À l'heure actuelle, on dénombre officiellement 551 personnes tuées par le régime et des milliers d'arrestations, peut-être entre 30 et 40 000. Un rapport de l'ONU publié mi-septembre parle de crimes contre l'humanité. Je vous invite d'ailleurs à le lire, c'est le rapport le plus récent que j'ai trouvé. La version française en ligne s'intitule « L'Iran continue de réprimer les femmes et les filles selon la mission d'enquête de l'ONU ». On y mentionne qu'en parallèle de la répression du militantisme pour les droits des femmes en tant que telles sont en voie aussi d'être réformées. Donc l'État va aller exactement dans le sens contraire de ce que réclame la population. Je vous lis un extrait du rapport de l'ONU. Un projet de loi sur le hijab et la chasteté est en phase finale d'approbation par le Conseil des gardiens de l'Iran. Il prévoit des amendes plus élevées, des peines de prison plus longues, des restrictions en matière de travail et d'éducation et des interdictions de voyager. Donc, il y a un nouveau président en Iran, mais c'est pas lui qui a le dernier mot sur l'agenda législatif. C'est pourquoi le mouvement Femmes, Vie, Liberté perdure, bien que très affaibli. Et c'est pourquoi aussi il y a 34 détenues iraniennes qui ont entamé une grève de la faim pour souligner ce deuxième anniversaire du décès de Mahsa Amini. Pour passer au Pérou maintenant, un autre décès qui nous fait pas mal moins de peine, récent, celui de l'ancien président entre 90 et 2000 de Alberto Fujimori, qui aurait dû mourir en prison. Il avait été condamné pour corruption et crimes contre l'humanité, mais ironiquement, il avait été libéré pour des raisons humanitaires, parce qu'il était malade. Il y a eu 3 jours de deuil national qui ont été décrétés, qui ont probablement été en même temps 3 jours de célébration populaire à travers tout le Pérou. Je passe déjà à la Côte d'Ivoire dans ce segment droits humains dans le monde, des enjeux LGBTQ+. On parle d'une vague actuelle d'agressions homophobes et transphobes, autant physiques que verbales, et alimentées par les réseaux sociaux. On parle d'une hostilité jamais constatée auparavant. Il y a même des individus qui ont commencé à déménager et des associations et des commerces qui ont fermé parce que la peur s'est vraiment installée. Un peu comme pour les récentes émeutes en Irlande et en Angleterre, cette haine s'est libérée à la suite de fausses nouvelles. Paraît-il qu'il y aurait un crime qui a inventé de toutes pièces, non pas perpétré par un réfugié ou un musulman cette fois-ci, mais par un homme gay sur un enfant, mais ça s'est avéré... De la bullshit.
Inventé, ouais.
C'est très dommage. Ça, la Côte d'Ivoire était considérée comme un des très rares pays africains avec l'Afrique du Sud à être officiellement, dans le sens légalement, le plutôt tolérant sur les enjeux d'orientation sexuelle et de genre. On parlait du refuge tranquille de l'Afrique de l'Ouest. Du refuge fragile, de l'Afrique de l'Ouest.
Okay.
Mais on craint qu'avec ce déchaînement de haine aussi subi qu'intense, on retourne dans le fond du baril pour aller rejoindre les pays voisins les plus violents sur ces questions-là. On peut voir des vidéos en ligne de grosses foules en liesse qui attaquent des commerces destinés aux clientèles LGBTQ+. C'est vraiment pas beau à voir.
Ça vient de où, ça, sais-tu?
Les vidéos?
Ben non, mais cette vague-là de haine.
Ah, des TikTokers évangélistes. Puis, ils suivent à retardement les vagues de néoconservatisme qu'on les voit aux États-Unis ou tout ça. Donc,
ou ici.
Oui, si, c'est ça. Ben, ça part souvent du mouvement américain néoconservateur, là, qui est lié à l'Église évangéliste. Là, souvent.
OK, très bon.
Donc, pour l'instant, l'homosexualité reste non criminalisée en Côte d'Ivoire, mais il y avait eu un recul inquiétant en 2021. L'État avait retiré du code pénal l'orientation sexuelle comme motif de discrimination.
Là, OK.
Ce qui permet un peu le déchaînement actuel sans que ce soit sanctionné. On termine ce petit tour du monde à 17 000 km d'Abidjan. On s'en va en Indonésie, où on nomme de plus en plus le racisme systémique dont sont victimes les communautés autochtones papous. Je vais juste démêler la géographie physique politique. Les papous vivent sur l'île de Nouvelle-Guinée, dont la partie est fait partie du pays Papouasie-Nouvelle-Guinée et dont la partie ouest fait partie de l'Indonésie. Donc aujourd'hui, je vous parle des papous qui vivent dans la partie occidentale de l'île, donc en Indonésie, et qui souffre des décisions du gouvernement indonésien. Il y a eu dans les dernières années beaucoup de manifestations demandant un meilleur accès aux soins de santé, à l'éducation et aux moyens de subsistance, à la fois par la population générale, mais on juge qu'il y a un racisme systémique puisque cet accès aux services de base est encore plus limité dans les communautés papoues, un peu comme on le voit au Canada pour les Premières Nations. On parle de double discrimination parce qu'il faut ajouter que dans le cadre des soulèvements populaires, la répression était beaucoup plus dure envers les activistes papous qu'envers ceux de la population générale.
Ouais.
Human Rights Watch parle de torture, d'exécution extrajudiciaire, de déplacements forcés massifs. Dans un rapport tout récent de 80 pages qui s'intitule « If it's not racism, what is it? » mais dont on trouve un résumé en français dont le titre est « Indonésie, racisme et discrimination envers la communauté autochtone papou ». On le trouve dans le site de Human Rights Watch sur hrw.org.
C'est comme les Autochtones d'Indonésie, un peu les Papous. Hein,
oui, d'Indonésie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, principalement sur l'île de Nouvelle-Guinée.
Oui, mais c'est le statut d'Autochtone un peu.
C'est une communauté officiellement reconnue.
C'est oui, ça, exactement.
Exactement.
C'est parfait. Ça. Merci beaucoup, Simon, pour ce tour du monde en quelques minutes.
Un rapide tour.
Des droits de la personne, des droits humains. On va y aller en musique avec une voix que vous devriez reconnaître. No Suicide Act, la pièce « Quel temps fait-il? »
Quel temps fait-il à Gaza, sous le ciel de la vengeance, silence radio, TV, nada, répétition de l'ignorance. Quel temps fait-il pour les enfants qui crient, qui hurlent sous les bombes, qui se demandent combien de temps ils survivront à l'hécatombe. Quel temps fait-il dans les kibbutz, marqués par les massacres en chaîne, la terreur, le sang sur les routes, des otages en monnaie de haine. Quel temps fait-il à Kherson, pourquoi ne sommes-nous plus personne, la tête enfouie, la voix tonne, face à la ruine né sous les drones. Oh, 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 oh. Hey, oh, oh, oh. fait-il à Hong Kong sous la violence rouge de King Kong? Quel temps fait-il chez les Ouïghours? Le ton est grave, le monde est lourd. Quel temps fait-il sur notre terre? Son lot de meurtre et de misère. Où s'arrêtera cette surenchère à l'aube d'une folie nucléaire? Quel temps fera-t-il donc en France si l'on accepte ces manigances? Jusqu'où iront toutes nos souffrances si l'on ne dit pas ce que l'on pense? Quel temps fait-il à Gaza? Personne ne sait ni ne le voit. Quel temps fait-il sous cette terre à vivre au bord d'un grisonnaire? Fait-il à Gaza sous le ciel de la vengeance, silence radio, TV, nada, répétition de l'ignorance. Quel temps fait-il pour les enfants qui crient, qui pleurent sous les bombes, qui se demandent s'ils ont déjà leur petit corps dans la tombe? Quel temps fait-il n'importe quoi, ici ce n'est pas Hiroshima, si quelqu'un meurt dans tes bras, alors tu ne diras plus ça. Quel temps fait-il pour les enfants, leur petit corps dans la tombe, leur fantôme déjà sous nos pas, ce n'est pas si loin Hiroshima. Quel temps fait-il à Gaza? Quel temps fait-il à Kherson? Quel temps fait-il à Hong Kong? Quel temps fera-t-il donc en France? Répétition de l'ignorance, répétition de l'ignorance. Répétition de l'ignorance.
Vous avez peut-être reconnu François Béru à la voix avec Mad Sax au saxophone. C'est un nouveau projet qui s'appelle No Suicide Hack. La pièce s'appelait Quel temps fait-il? C'est de l'album Interbellum sorti officiellement en septembre dernier, il y a quelques semaines. Punk expérimental pour François de Béru avec le même genre de texte en quelque part. Politique, ici on parle de Gaza puis de l'Ukraine entre autres. Mais il y a des pièces aussi un petit peu plus personnelles ou en tout cas plus des réflexions. On les a vus pour leur premier concert à vie. Ils étaient au Fouf il y a un mois à Montréal dans un festival punk. Et peut-être vous dire que je vous encourage à aller voir ça. Il y a même des reprises de Béru, mais façon No Suicide Act. Donc, je vais faire un petit micro sur... une nouvelle qu'il y a eu au Manitoba en lien avec les Autochtones. La grande chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, est décédée le 6 septembre dernier après un malaise survenu devant le palais de justice de Winnipeg. Les événements sont survenus alors qu'elle s'adressait aux médias. Elle réagissait à l'acquittement de Robert Jeffrey Morden, un agent correctionnel accusé de la mort d'un détenu autochtone au centre correctionnel de Headingley en 2021. Dans sa dernière prise de position publique, Mme Merrick a rappelé que le médecin légiste en chef du Manitoba avait jugé que la mort de William Hameau était un homicide. Selon elle, la décision indiquait au monde que les droits et la dignité des peuples des Premières Nations et la décision du médecin légiste peuvent être ignorés sans conséquence par la justice manitobaine. Sinon, elle est devenue la première femme de l'histoire du Manitoba à recevoir la rare distinction d'être exposée en chapelle ardente au palais législatif du Manitoba après sa mort. Première femme élue grande chef de l'Assemblée, elle a été une fervente avocate pour la recherche au site d'enfouissement Prairie Green où reposeraient les restes de Morgan Harris et Mercedes Marin, on en a parlé souvent, la fameuse décharge à Winnipeg. L'Assemblée des chefs de Manitoba a lancé un mouvement de boycottage contre le Winnipeg Free Press. Elle déplore la publication de l'image qu'elle qualifie d'insensible de Mme Merrick. L'image que le journal a publiée sur son site Internet montrait une foule de personnes rassemblées autour de la grande chef alors que son corps était partiellement visible à terre devant le palais de justice. Le quotidien a retiré l'image de son site une heure après la publication du communiqué de l'Assemblée. Invité à commenter le boycottage, le premier ministre du Manitoba, Wab Kenew, a indiqué que le journal avait violé une norme culturelle. Le Winnipeg Free Press a ensuite publié un article en ligne dans lequel il reconnaît ne pas avoir suivi le conseil initial de son chroniqueur autochtone qui était de retirer la photo. Je les cite à ceux qui ont été bouleversés et traumatisés par la photo, nous présentons nos excuses les plus sincères. Donc voilà, nouvelle au Manitoba qui a fait beaucoup de bruit. Mariette est avec moi en studio principal.
Bien sûr.
Gros stock cette semaine pour racisme, profilage, corps policier. Il y avait de l'actualité au Québec.
Oui, ça a été riche en actualité, effectivement, qui sont venus, si une telle chose était nécessaire, contredire ceux qui continuent de répéter que le racisme et le profilage racial n'existent pas au sein de la police. comme le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, en réaction à la lettre de départ à la retraite du commandant Patrice Vilsius, un haut gradé d'origine haïtienne du SPVM. Dans cette lettre-là, Patrice Vilsius écrit entre autres que les recherches scientifiques commandées par le SPVM sont un exemple flagrant de ce cancer, le racisme, qui ronge l'organisation. Il y a aussi le commandant à la retraite du SPVM, Minh Thi Thoang, qui a confirmé les affirmations de Patrice Vilsius quand on lui a demandé si l'accès aux promotions est plus difficile quand on est issu d'une minorité visible ou culturelle. Sa réponse était sans équivoque, oui. Je le cite. « Quand il y a des gens des communautés qui sont rendus des boss, il y a toujours un bruit de fond qui dit qu'il faut toujours que l'organisation en choisisse un ou deux de couleur, un importé. » C'est le thème qui est utilisé. Aussi, dans sa lettre de démission, le commandant Vilsius, pas M. Thoang, là, mais le commandant Vilsius pointe certains dirigeants du SPVM qui... je cite, défendre le statu quo avec des visions stériles, car ces derniers empêchent l'organisation de déployer pleinement ses capacités de se renouveler et de se moderniser face aux nouvelles réalités. Qu'à cela ne tienne, comme je le disais, le ministre Bonnardel réduit l'expérience de Minh Thi Thoang et de Patrice Vilsius à de simples difficultés et continue de marteler qu'il ne croit pas qu'il y a du racisme systémique dans la police ou même du racisme érigé en système au SPVM. C'est ça. Ce qui m'amène à revenir sur le jugement de la Cour supérieure du Québec qui a condamné début septembre la ville de Montréal à dédommager les personnes noires qui ont été victimes de profilage racial là, en marge d'une action collective de 170 millions de dollars quand même menée par la Ligue des Noirs contre la ville de Montréal. Le jugement s'ouvre sur ces mots. Il s'avère indéniable que le phénomène du profilage racial se manifeste au sein du service de police de la ville de Montréal depuis de nombreuses années. La juge arrive aussi à la conclusion que le phénomène du profilage racial au SPVM est, et je cite, « systémique ». C'est écrit donc noir sur blanc. Mais comme l'écrit le politologue Francis Dupuy-Déry dans une lettre publiée dans Le Devoir, dans la section idées, là j'ouvre les guillemets, c'est un peu une longue citation. Même si ce sont les policiers qui sont les premiers fautifs, c'est la ville de Montréal qui est jugée coupable et donc légalement et financièrement responsable de cette condamnation pour profilage racial. Il y a ici confusion entre, d'une part, la responsabilité formelle et institutionnelle de la ville en tant qu'employeur de la police et, d'autre part, le principe d'indépendance de la police par rapport au pouvoir politique municipal.
Ben oui.
Ce principe d'indépendance pourrait laisser croire que la police est responsable du profilage racial et qu'elle subirait les conséquences d'une condamnation à ce sujet. Mais là, on vient de le voir, il n'en est rien.
Ben oui.
Mais il n'y a pas que le SPVM qui pratique le profilage racial, qui semble au contraire généralisé dans tout le pays. Par exemple, toujours au début septembre, il y a la GRC qui s'est excusée auprès des communautés noires de la Nouvelle-Écosse pour l'utilisation excessive des contrôles policiers de routine qui les ciblent de façon disproportionnée. Quelle surprise!
Ben oui.
Il faut savoir que depuis 2019, les forces policières en Nouvelle-Écosse sont plus autorisées à effectuer des contrôles de routine, c'est-à-dire des contrôles...
Interpellation aléatoire, là?
Oui, aléatoire, dans le but de recueillir des renseignements personnels sur des personnes qui sont non soupçonnées. Faut le préciser quand même. En novembre 2019, il y a la police régionale d'Halifax qui avait présenté des excuses à la communauté afro-néo-écossaise pour ce type de profilage racial-là. Et là, donc, la GRC, elle, refusait depuis des années là, de faire la même chose. Et donc, ça fait seulement un an que la police fédérale a changé d'avis. Et donc, ces excuses-là s'inscrivent dans une série d'engagements pris par la GRC, qui sont l'aboutissement là, de consultations qui ont été menées dans 13 communautés noires de la province. Parmi les engagements, il y a une coopération accrue avec la communauté noire de la province, une meilleure représentation des minorités visibles au sein de ses effectifs. Bonne chance, on l'a vu avec le SPVM. La sensibilisation du personnel aux torts historiques causés, puis une meilleure collecte des données aussi réparties selon l'origine ethnique afin d'améliorer la transparence et la responsabilité du corps policier. Et puis, à l'autre bout du pays, en banlieue de Vancouver, il y a 3 membres de la GRC de Coquitlam qui font actuellement face à une audience disciplinaire et qui risquent d'être envoyés pour des propos jugés raciste et sexiste. Mm-hmm. L'enquête a été déclenchée par la plainte d'un agent concernant un comportement raciste et horrible dans un groupe de communication privée de l'application cryptée Signal,
ah ouais,
qui comptait 7 autres personnes, dont 2 superviseurs. Il y a CBC News qui a obtenu des documents judiciaires détaillant les conversations, notamment que un policier de la GRC avait plaisanté sur le fait d'utiliser un pistolet électrique, un taser, là, sur des personnes noires non armées. Dans un autre cas, il y a un policier qui aurait traité une victime d'agression sexuelle de stupide. Et parmi les autres exemples recueillis là, dans les ordinateurs de la GRC, on trouve des déclarations comme « Pourquoi les hommes noirs ont-ils une voix anormalement aiguë ?» et « Je viens d'arrêter une voiture en raison de son profil racial. » Bref, c'est chic.
Des échanges, donc, dans des messageries entre,
ouais,
policiers.
Exact. Et puis ça, ben là, on revient au cas de personnes autochtones. Un peu, ça fait lien avec ton micro précédent,
sur
Mathieu.
Sur Katie Merrick, ouais.
Ouais, parce que c'est sans compter les 6 personnes autochtones qui ont été tuées par des forces policières du pays entre le 29 août et le 9 septembre dernier. Comme l'écrit Aurélie Langteau dans sa chronique du Devoir le 20 septembre, proportionnellement à leur représentation au sein de la population générale, c'est grossièrement comme si 130 personnes étaient mortes à la suite d'une interaction avec la police en moins de 2 semaines. Puis dans la semaine précédant la publication de la chronique d'Aurélie Langteau, ben 3 autres hommes autochtones sont morts alors qu'ils étaient détenus par la police. Ça l'a amené la députée néo-démocrate du Nunavut, Laurie Idlout, a adressé une lettre au président de la Chambre pour demander un débat national sur la question, un débat d'urgence. Et donc aussi, ben moi, ce que ça me fait dire, c'est, ouais, je me demande comment on peut encore honnêtement prétendre que il s'agit en fait du fait de pommes pourries. Comme l'a dit Francis dans sa chronique, Francis Dupuy-Déry, ben c'est le verger au complet qui l'est.
Ben oui, tout à fait. Et d'ailleurs, depuis ces événements-là, il y a 3 autres personnes autochtones qui ont été tuées par la police depuis 2 semaines.
Oui, c'est ça.
Non,
c'est
en,
ça,
plus des 3,
en plus des 3 autres. Ouais, ben,
au moins, c'est ça, il y en a eu 3 autres ailleurs au Canada. J'ai lu ça aujourd'hui. Donc voilà, ben merci beaucoup Marie-Ève pour cette revue assez exhaustive du verger au complet.
J'aurais pu parler de d'autres choses aussi, mais bon, évidemment.
Le verger au complet, voilà. D'ailleurs, il y a un lancement en ce moment à l'UQAM avec la claque sur aussi leur podcast Le verger au complet qu'ils avaient, ouais, fait sur la police et la répression. Donc au Café Philanthrope actuellement. Donc on va y aller en musique avec une deuxième pièce. Le groupe s'appelle, le projet s'appelle Violence gratuite, la pièce Iseo.
Tiens bon le vent, et c'est oh, 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 o
quelle pièce quand même. Violence gratuite, le nom du projet, la pièce ISEO, I-S-E-O. C'est le projet de Violaine Morgan Lefeur, qui est une Française d'origine camerounaise, sur le label d'Ouganda qui s'appelle Hakuna Kulala. Et l'album s'appelle Baleine à Boss, mais Boss comme un patron, sorti en juin dernier. C'est dans le palmarès international de Choc. Quel style, Marie-Ève? C'est particulier.
Hein? Ouais, non, c'est très original, je trouve.
Ouais. Fait que, Simon, qu'est-ce que t'en penses?
Du post-gospel, je sais pas.
Néo-soul expérimental, ouais, c'est ça. C'est un peu, en tout cas, un album à découvrir et c'est dans le palmarès, donc, international de Choc. Donc, je vais y aller avec un mini-micro sur l'Algérie parce qu'il y a eu une présidentielle il y a quelques semaines. Et que c'est assez particulier. L'Algérie, ça fonctionne vraiment drôlement. Les trois candidats à la présidentielle du 7 septembre dernier en Algérie, l'islamiste Abdelali Hassani, le socialiste Youssef Ayouchiche et le président sortant et élu Abdelmadjid Tebboune, ont contesté le taux de participation et le pourcentage de voix en leur faveur conjointement. Donc, l'élu et les deux autres ont fait un communiqué conjoint pour dire que l'autorité électorale s'appelle Lani, avait fait de la magouille, de la fraude et tout ça. C'est vraiment particulier. Mais bon, le président du Mouvement pour la Société pour la Paix, principal parti islamiste, a obtenu 3,17%. Le chef du Front des Forces Socialistes, Ayouchiche, a obtenu 2,16%. Mais le président sortant a obtenu 94,65% des résultats. Mais il conteste aussi les résultats et le taux de participation.
Ah, il aurait aimé ça avoir 100%.
Écoute, je sais pas. Mais je pense qu'il voulait tout bûcher sur l'espèce de fonctionnaire qui s'occupait de ça. Pour l'analyste Asni Abedi, le score record de M. Tebboune n'est pas une surprise. En revanche, il a échoué à mobiliser les électeurs. Il n'a gagné que 320 000 voix de plus qu'en 2019 et n'a fait déplacer qu'un peu plus de 5 millions d'électeurs sur 24 millions d'inscrits. Donc, taux de participation de moins de 25%.
Ah, okay, ouais.
Fait que l'Algérie, qui est un espèce de régime à parti unique, mais avec des pseudo-élections, c'est vraiment l'impasse complète pour ce pays. On en parlera plus une prochaine occasion. Fait que Marie-Ève, écoute, t'es toujours avec moi.
Oui.
Le titre de ta chronique, Durcissement de la forteresse Europe.
Oui, et je commence vers l'Allemagne, on le sait, où l'extrême droite reprend du galon. Hein,
ouais.
Et ça peut pas faire autrement que se refléter dans les politiques en matière d'immigration. Dernière des mesures adoptées à la mi-septembre, le pays a étendu les contrôles temporaires à toutes ses frontières terrestres pour au moins 6 mois, renouvelables.
Ben oui.
Concrètement, ça veut dire que la police va intensifier les contrôles aléatoires des véhicules, des bus, des trains qui traversent la frontière. Donc, les contrôles pourraient évidemment entraîner des retards et des embouteillages, mais le plus important, c'est que ça pourrait surtout augmenter les contrôles aux faciès et le profilage racial, hein, tout est dans tout,
oui,
on en parlait tantôt.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais.
Le gouvernement veut aussi mettre en place un système de rétention, j'haïs ce mot-là, de détention des demandeurs d'asile dès leur entrée sur le territoire. L'objectif officiel, éviter les fuites et faciliter les procédures accélérées pour vérifier si les personnes relèvent ou non du règlement Dublin.
Il y a du François Legault là-dedans.
Jusqu'ici, la règle générale en Allemagne était que les demandeurs d'asile peuvent pas être détenus tant que leur demande n'est pas définitivement rejetée et qu'ils disposent d'une autorisation de séjour. Par contre, certaines exceptions avaient été introduites là, dans le cadre de modifications légales, par exemple récemment comme la loi sur l'amélioration des expulsions qui est entrée en vigueur en février dernier. Cette loi-là avait déjà élargi les motifs pour lesquels les demandeurs d'asile peuvent être placés en détention. Là, pour l'instant, il y a deux pistes qui sont envisagées pour rendre le système légal au regard du droit national et européen.
Soit
les tribunaux motivent la détention par le risque de fuite, soit les exilés se voient appliquer une assignation à résidence. C'est ça.
Comme des criminels, là.
Exact.
Ouais, ouais.
Mais avant que les détentions aux frontières se concrétisent, là, c'est à l'état de projet pour l'instant, Berlin doit quand même négocier le projet avec les 16 gouvernements régionaux parce que c'est ces autorités-là qui seraient responsables de la mise en œuvre des mesures. Puis le gouvernement doit aussi, là, ben, en tout cas, il a annoncé son intention de consulter ses partenaires européens dont la coopération serait cruciale pour le retour des potentiels des demandeurs d'asile. Donc, ça risque de pas être facile parce que ben, plusieurs pays voient le projet comme une façon de contourner les règles qui régissent l'espace Schengen, voire même une façon d'abolir, là, de l'abolir par la porte d'en arrière. L'Allemagne partage, il faut savoir que l'Allemagne partage des frontières terrestres avec 9 pays.
Mais oui, c'est vrai.
Et donc, de telles mesures pourraient permettre de renvoyer plus massivement là, les migrants dans les pays par lesquels ils sont entrés dans l'Union européenne, qui sont généralement considérés comme des pays de transit, comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce, Chypre ou la Bulgarie. On va en Suède. Aussi, les mesures pour faciliter l'expulsion des personnes migrantes se multiplient. La coalition de droite au pouvoir a proposé à la mi-septembre de plus que tripler, en fait, le montant d'aide de retour volontaire aux personnes migrantes dans leur région, dans leur pays d'origine. Le gouvernement souhaite faire passer 30 000 euros par personne, soit environ 45 000 $.
Quand même, hein? Oui.
Comme comparatif avec d'autres pays qui proposent une aide de retour, elle est d'un peu plus de 13 000 euros au Danemark, environ 1 300 en Norvège et jusqu'à 2 500 en France. Fait que c'est pas mal plus élevé.
On était à 30 000, ouais, OK.
Cette allocation-là existe depuis 1984, mais selon Ludvig Aspling, un parlementaire du parti d'extrême droite, les démocrates de Suède, elle serait relativement peu connue et il pense qu'en l'augmentant puis en la faisant connaître, ben, il y a plus de personnes migrantes qui aurait recours au retour volontaire. Sauf qu'il y a un rapport d'enquête qui a été commandé par le gouvernement et rendu public en août, qui avait déconseillé d'augmenter substantiellement cette allocation-là, okay. parce qu'elle serait peu efficace au regard de son coût, en fait. Puis l'auteur du rapport ajoute aussi qu'elle risquerait de nuire aux efforts d'intégration des personnes migrantes. En mai dernier, il y a une autre mesure qui a provoqué un tollé dans le pays. La coalition au pouvoir avait proposé une loi pour obliger, écoutez ça, les travailleurs du secteur public à dénoncer aux autorités les personnes sans papier avec lesquelles ils sont en contact.
Oui, je me rappelle.
Mais bon, heureusement, cette loi-là, cette mesure-là qui a été jugée raciste et discriminatoire, là, avec raison, s'est heurtée à une très forte opposition au sein des services publics qui ont même appelé à la désobéissance civile.
Oui, on en avait parlé, je me rappelle.
Reste que l'idée n'est pas encore complètement abandonnée parce que est encore à l'étude là, actuellement au Parlement. Et je termine avec les Pays-Bas, où le dirigeant d'extrême droite, Geert Wilders, a officiellement demandé à l'Union européenne une dérogation sur le droit d'asile, carrément.
C'est-à-dire?
Ben, qu'il soit plus sujet aux lois internationales, aux lois de l'Union européenne qui régissent le droit d'asile. C'est une annonce qui intervient quelques jours seulement après la présentation par le gouvernement d'un programme anti-immigration le plus dur dans l'histoire du pays, ce qui inclut le renvoi immédiat de migrants sans papier, un durcissement du regroupement familial, que les permis, la suppression aussi des permis de séjour permanent soient supprimés et que les demandeurs d'asile soient déboutés s'ils ne se rendent pas à leur rendez-vous. Bref, il veut s'affranchir carrément des règles de l'Union européenne, comme je le disais. Puis même si c'est techniquement possible, mais c'est compliqué parce que puis ça peut prendre des années parce qu'il faut que les 26 autres pays de l'Union européenne soient d'accord.
Ben oui.
Ce qui me surprendrait.
Ben c'est sûr que les mesures dont tu viens de me parler risquent d'être contestées au niveau européen. Donc il veut prendre l'avance puis se sortir du carcan.
Oui, c'est ça.
Juridique européen.
Exact. Ouais, fait que ça va bien dans l'espace.
Oui, puis on aurait pu parler de plein d'autres pays hein, aussi
oui,
où ça va pas bien
c'est
plus.
C'est sûr, là. C'est sûr. Mais
ben Allemagne, Pays-Bas et Suède. Merci Marie-Ève. On va continuer en musique avec une autre pièce du palmarès de choc, le groupe montréalais Autre part avec la pièce La Machine. Le groupe Autre part, la pièce La Machine, de leur album Le Pire est à venir, sorti en juin dernier sur Slam Disc. C'est leur premier album complet, il existe depuis 2020. C'est un 4 soirs de Montréal qui fait du post-rock, indie, un peu post-punk par bout, dépendamment des pièces. Ils sont dans le palmarès Choc local depuis quelques semaines et ils seront en concert le 18 octobre au Turbo House avec Dogo Suicide à Montréal, donc dans 2 semaines à peu près. Donc, ben voilà, je vous fais un mini micro sur une petite bonne nouvelle quand même en lien avec l'immigration, Simon.
On va l'apprendre.
On va l'apprendre. Donc, ils prévoyaient passer la nuit debout dans l'angoisse, mais ils pourront finalement dormir sur leurs 2 oreilles pour 6 mois. La famille Zamudio Quintana, d'origine du Mexique, qui devait être expulsée tôt le 20 septembre, pourront rester, alors que la Cour fédérale avait refusé la demande de sursis la veille. En fin de journée, le ministre fédéral de l'immigration, Mark Miller, a accordé à la famille un permis de séjour temporaire de 6 mois, ce qui lui laissera le temps de déposer une demande de résidence permanente pour motif humanitaire. Donc, plus tôt dans la journée, les Amudo Quintana, une famille mexicaine établie au Québec depuis 6 ans, vivaient leurs dernières heures dans la province, dans le stress le plus complet. Malgré tout, le père José est allé travailler comme chauffeur. Les enfants sont allés à l'école dans Chlagan-Maisonneuve, comme d'habitude. À la fin des classes, une vigile s'était tenue devant l'école en soutien à la famille. Faut dire qu'une pétition de plus de 2600 signatures et plusieurs lettres d'appui de la part des employeurs des parents et des enseignants des enfants et de politiciens et de beaucoup de monde avait également été acheminée ces dernières semaines au ministre Miller. Donc, originaire de Michoacán, la famille avait demandé l'asile au Québec pour avoir fait l'objet de menaces et d'extorsions de la part du cartel de Jalisco, parmi les plus puissants du Mexique. Les 3 enfants parlent parfaitement français et sont très bien intégrés selon leurs enseignants, enseignantes, évidemment. Donc, bonne nouvelle pour cette famille. Malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde, mais on le souligne quand même quand il y a... Fait que là, ils ont des bonnes chances d'avoir leur résidence en raison de motifs humanitaires, éventuellement. Voilà, Simon.
Comme quoi, le soutien de la communauté peut probablement aider des fois.
Est assez important, oui, tout à fait, tout à fait.
Donc, Immigration Québec, ben, je vous parlerai pas de Legault et de ses zones d'attente ou centres de rétention, comme Marie-Ève dirait, là, parce que j'ai préparé mes affaires avant qu'il pogne encore plus la rage cette semaine sur les questions d'immigration. Je vais rester au Québec quand même pour les 7-8 prochaines minutes. Je vous parle de parrainage, de francisation, d'extrême droite, mais je vais commencer avec un point positif, moi aussi.
OK, vas-y.
Ça va se gâter après, là, évidemment. Ben, donc, une nouvelle qui circulait récemment dans les médias et qui ne démonisait pas l'immigration. La nouvelle en question, c'est le taux de succès très élevé du recrutement d'infirmières et d'infirmiers africains dans le réseau public de santé. Un programme de 65 millions de dollars qui avait été lancé en 2022. Le but était de recruter et de former environ 1000 infirmières dans la francophonie partout dans le monde, mais dans les faits, 93% des participantes au programme proviennent d'Afrique, autant maghrébine que subsaharienne. Donc, 2 ans plus tard, on est déjà en mesure de faire un premier bilan, puisque dans la majorité des cas, soit on est déjà au travail, soit on en est aux dernières étapes de la formation, c'est-à-dire le redouté examen de l'Ordre des infirmières du Québec, dont la réussite permet de pratiquer le métier. Eh bien, le taux de réussite des participants du programme est de 87%, ce qui est très élevé. Il faut souligner aussi le taux d'abandon en cours de formation qui est très faible. Autre point à souligner, c'est le fait que la plupart des personnes recrutées restent dans les régions où elles ont reçu leur formation d'appoint. Donc voilà, j'avais pas entendu nos chroniqueurs haineux habituels mentionner ce beau succès de l'immigration, donc je pense qu'il fallait le faire.
Ben oui.
On va espérer que les personnes recrutées maintenant ne vivront pas trop de discrimination de la part de leurs collègues ou, comme on l'a vu à plusieurs reprises, de la part de certains patients mal commodes. Maintenant, on parle du MIFI, le ministère québécois de l'immigration, qui persiste dans sa suspension des traitements des dossiers de parrainage effectués par des organismes.
Ouais.
Là, je parle pas du parrainage familial ou individuel, mais vraiment des demandes par des organisations. Je vais résumer vraiment grossièrement parce que c'est une saga à rallonge qui est plutôt complexe. Il faut remonter dans le temps. En 2020, il y avait eu des allégations de fraude par rapport à certains organismes de parrainage. Alors, Québec avait lancé une enquête. Mais le programme continuait de fonctionner jusqu'à ce que le ministère décide tout simplement d'arrêter de traiter les demandes sans nécessairement les refuser. Il mettait tout en suspens. Début 2024 est arrivée la nouvelle suivante. Tous les dossiers déposés en 2022 sont refusés d'office.
Ouais, j'ai vu ça.
On craint que la même décision soit annoncée sous peu pour les dossiers déposés en 2023. C'est ce qu'on craint au réseau des organismes et groupes de parrainage et réfugiés du Québec, le ROG-PRAC, mais ça n'a pas encore été confirmé. Il y avait une date butoir du 20 septembre dernier pour que les organismes plaident pour la défense de chaque dossier individuellement auprès de chaque répondant du ministère. Mais on dénonce encore une fois du côté du ROCPRAC des communications très difficiles et même souvent inexistantes. On déplore le fait que le ton est très accusateur. Les organismes de parrainage, on les mettrait tous dans le même panier. Ils se sentent traités comme des fraudeurs, ce qui est loin d'être toujours le cas. La plupart avaient même été blanchis suite à l'enquête du MIFI. Donc c'était vraiment un cas de pomme pourrie. Là,
mm-hmm. Ouais.
Et surtout, on s'explique mal que d'une manière plus technique, qui n'est pas très évidente à expliquer, c'est pas la base réglementaire qui a changé dans le programme, c'est pas les prérequis ni les exigences concrètes, c'est l'interprétation par le gouvernement d'un de ses propres règlements par rapport à la notion de co-garant avec argent placé en fidéicommis qui est redonné aux réfugiés à son arrivée. Les fraudes alléguées concernaient cette partie des pratiques des organismes visés, mais c'est une pratique qui, quand elle est bien encadrée, fonctionne très bien, comme on le voit dans, je crois, toutes les autres provinces.
Exactement, puis dans d'autres types de programmes aussi, non?
Exactement. Ouais. Bref, les organismes sont rendus au point de demander à Québec d'arrêter de jouer au fou, parce que tant qu'à refuser 100% des demandes des organismes de parrainage, ben réformer le programme ou... fermez-le.
Changer le règlement, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Question
ouais.
d'arrêter de rire du monde. Les demandeurs pourront arrêter d'espérer pendant des années, payer des frais onéreux, faire des démarches inutiles, parfois pendant que leur vie est en danger, pour se tourner vers d'autres voies pour immigrer ou s'adresser à des provinces où les règles sont claires et les communications efficaces. On continue dans les cacastrophes. Je sais pas si j'ai un brevet là-dessus.
Quelle catastrophe!
malgré que la nouvelle devise du Québec, c'est maintenant « Immigrants menacent culture française », bon, on apprenait le 22 septembre dernier, sans aucune forme de préavis, surprise que le gouvernement québécois abolissait l'aide financière offerte pour l'apprentissage du français à temps partiel, et c'est déjà effectif à l'heure actuelle. Donc, ouais, l'aide de 28 $ par jour qui concernait les cours à temps partiel est abolie. 28 $, ça peut sembler bien peu, mais au bout de la semaine, ça vient quand même combler un vide créé par le fait d'aller en francisation, qui parfois peut empêcher justement de travailler en temps plein. Les aides concernant la francisation en temps complet sont maintenues, sauf que l'école à temps plein, ça correspond pas à la réalité de la majorité des immigrants adultes, évidemment, qui ont des familles, des emplois, parfois d'autres études ou formations simultanément. Bref, toutes sortes d'obligations. Je vais paraphraser le préféré de Mathieu Marie, je ne me rappelle plus, Jean-François Robert.
Hey, GF!
Notre bon chum, GF. Le 28 $ d'aide n'est plus nécessaire parce qu'il y a une explosion des inscriptions. Donc,
Mais c'est parce que je comprends pas le lien de cause à effet.
Il n'y a plus besoin d'incitatif.
Il n'est plus nécessaire
plus
parce qu'il y a...
plus besoin d'incitatif.
C'est ça, parce que dans le fond, pour lui, c'était pas une aide, c'était qu'un incitatif.
Un incitatif, oui, c'est ça.
Il y a un chiffre qui pourtant lui est bien réel, c'est 50 000 personnes par année qui bénéficiaient de cette aide financière
quand
à la francisation à temps partiel. Sauf que c'est ça, le son de cloche est différent chez les personnes qui bénéficiaient de cette aide, aussi minime peut-elle paraître, parce que ce qu'on nous dit, c'est que ça aidait vraiment à boucler les budgets. Évidemment, 28 $ pour un ministre et 28 $ pour une personne immigrante fraîchement arrivée, ça n'a pas exactement la même valeur.
Non.
Pour lui, je pense que c'est un petit amuse-bouche.
Un cornet. C'est...
Donc, entre-temps, beaucoup d'individus d'organismes... un cornet. Bon, doivent réorganiser leurs horaires, leur budget, faire des choix pas faciles. Le plus ironique, c'est que cette coupure sauvage arrive en même temps qu'une campagne de promotion du français qui a coûté 2,5 millions de dollars.
À la télé, là, les publicités?
Oui.
Oui, oui. Oui, OK.
Donc, je termine mon segment niaiserie québécoise avec une lettre ouverte publiée en juin dernier. C'est pas une niaiserie, ça, par contre, mais on a été moins présents cet été avec vous, donc on a dû mettre ça de côté.
Ben oui.
Le texte « Québec, immigration, la désinformation officielle », c'est écrit par France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International Canada francophone. Elle nous partage ses inquiétudes quant à la montée et la normalisation de la xénophobie et des théories d'extrême droite dans le discours public, et nous rappelle que si on veut voir ce qui s'en vient au Québec, au Canada, on a juste à regarder ce qui se passe maintenant dans certains pays européens et aux États-Unis.
Mm-hmm.
Elle n'hésite pas à nommer la CAQ et à affirmer, j'ouvre les guillemets, que ce gouvernement affirme et diffuse régulièrement des données qui sont partielles, tronquées ou hors contexte concernant les personnes demandeuses d'asile et les travailleuses, travailleurs étrangers. Madame Langlois nous rappelle certaines définitions, nous réexplique certains concepts humanitaires et politiques qui semblent avoir échappé à certaines élites qui, selon elles, autant sur le plan international aussi, ont complètement abandonné leur valeur morale sur la question. Elle donne comme exemple l'ouverture de la délégation commerciale du Québec à Tel Aviv.
À Tel Aviv, ouais.
Je ne vais pas résumer l'ensemble de son texte. Je pense qu'il faut vraiment lire, non pas la version abrégée sur lapresse.ca, mais la version complète sur amnesty.ca. Le titre, je le rappelle, Québec, immigration, la désinformation officielle.
Oui, on est en plein là-dedans. Donc, merci Simon pour ton florilège de niaiseries québécoises, entre autres.
C'est de ça? Cacastrophe.
Cacastrophe dans le sens de cac. OK, oui. C'est bon, merci.
T'as compris.
Donc, dans quelques instants, l'agenda. Donc, malheureusement, dans les prochains jours, ça sera on peut dire un an de génocide là, au Proche-Orient, surtout à Gaza. Plusieurs manifestations, événements dans la région de Montréal et ailleurs, partout au Canada, évidemment. Pour ce qui est de Montréal, le 5 octobre, donc ce samedi, à la Place des Arts, à 14h, organisé par Palestinian Youth Movement, pour marquer les 40 000 personnes et plus tuées à Gaza. En même temps, à l'Assemblée nationale à Québec, organisée par Palestine Québec, toujours le 5 octobre. La journée même, le 17 octobre, c'est à Montréal à 18h, à la Place des Arts, organisée par Montreal for Palestine. Et aussi à souligner que Tadamon et Solidarité sans frontières organisent une masse critique, la chevauchée du retour, le 12 octobre midi au Mont-Royal. Sinon, toujours en lien avec la Palestine, Cinératon et le Solidarité pour les droits humains en Palestine, UQAM, vous invitent à la résistance et justifiée en territoire occupé afin de réfléchir ces questions à travers la projection de courts-métrages portant sur l'histoire de l'occupation et des récits de résistance à Gaza. Trois films, Scenes from the Occupation in Gaza, 1973, Ambulance, 2016 et Gaza Fights for Freedom sur la Grande Marche du Retour de 2019. C'est le 10 octobre, 18h, à l'UQAM, au Café Philanthrope, qui est le café où il se passe beaucoup d'activités. C'est le Café de philosophie, donc, actuellement. Upopmontréal.com, saison automne 2024. Je vous nomme la série de cours, c'est assez intéressant. Le capital algorithmique, transformation historique et enjeux contemporains. Un an après le 7 octobre, perspective sur le génocide en cours. Changer les règles, la précarité menstruelle et ses enjeux. Ma thèse en 60 minutes, des étudiants résument leurs recherches. Antiféminisme et masculinisme. À qui la rue, regard en trois temps sur la fonction de la rue. Nation et nationalisme au 21e siècle. Et pour terminer, le cerveau à tous les niveaux de notre ami Bruno Dubuc, qui est toujours très actif, qui sort son livre ces temps-ci.
Ce soir même.
Ce soir même, exactement, au
B7.
Exactement. Jeudi, on le précise, jeudi le 3. Demain, vendredi le 4, afin de souligner l'apparition de l'anthologie « Je m'appelle Révolution, écrit et paroles d'une éternelle agitatrice » par Lucy Parson, Lux Éditeur et les IWW, vous invite demain soir à 17h30 à l'Atomic Café sur la rue Ontario dans Chicago Maisonneuve. Ce sera l'occasion, entre autres, de célébrer la part et l'héritage de cette syndicaliste libertaire d'importance. Il y aura lecture d'extraits, présentation, discussion sur l'actualisation de la pensée de Mme Parson dans nos luttes militantes et ouvrières. Et il y aura un échange avec le public, période de questions. Donc, tout ça demain soir, vendredi, le 4 octobre, au Café Atomic Café. Toujours demain soir aussi, c'est très chargé. Quatre femmes autochtones et défenseuses équatoriennes seront à Montréal pour participer à une table ronde lors de laquelle elles présenteront leurs préoccupations concernant les négociations de l'accord de libre-échange actuel entre l'Équateur et le Canada qui menace d'exacerber la grave situation des droits humains dans ce pays d'Amérique du Sud. Donc demain soir, 18h à la CSN sur la rue de Lormier. Où est-ce que rendu ma prochaine feuille? Ici! Donc c'est organisé par Mining Watch Canada et le CDA. Le CEDAL, finalement, que vous connaissez. 17 octobre, 17h30, au Asgang Plaza, sur la rue Saint-Hubert, à Montréal, l'Observatoire pour la justice migrante, que je connaissais pas, vous convie au lancement de sa prochaine publication intitulée « Les travailleurs temporaires et la construction d'une classe d'immigrants indésirables, 2 points, survol historique des racines coloniales et esclavagistes des politiques migratoires au Canada ». Il y aura donc panel et discussion avec les auteurs et autrices de l'article, en échange avec Marisa Berry-Mendez d'Amnesty et Mustapha Inoué, du Centre travailleurs immigrants. Donc, il y aura aussi une capsule de vulgarisation de l'article qui sera dévoilée et il y aura une période d'échange avec le public, donc 17 octobre, 17h30, au Asgang Plaza. Sinon, défendre les libertés civiles à l'ère de la sécurité nationale et de la guerre au terrorisme est une nouvelle publication qui souligne le 20e anniversaire de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, groupe important au Canada. Elle contient 27 nouveaux articles rédigés par des experts, des militants et des membres de la Coalition qui reviennent sur les 20 dernières années, sur les défis à venir. Donc, si vous voulez avoir le, si vous voulez lire le PDF ou commander une copie papier, ça se passe au iclmg.ca, donc le site de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles. Et j'aurais une dernière chose, si vous me le permettez.
C'est toi l'animateur.
Ben oui, on n'a pas parlé beaucoup d'enjeux autochtones aujourd'hui. Mais il y a deux livres sortis récemment de l'auteur Wendat Isabelle Picard, qui est allé puiser au cœur de son histoire personnelle et familiale, notamment la RAF des années 60, une réalité peu abordée au Québec. Des milliers d'enfants autochtones ont été arrachés de leur famille pour être placés de force dans des foyers d'accueil ou des institutions. Un grand nombre d'entre eux ont même été élevés au sein de la famille blanche. Cette histoire tragique, c'est celle du père, des oncles et des tantes d'Isabelle Picard. L'auteur de 47 ans affronte ses ondes d'ombre dans un ouvrage tout en pudeur et au titre évocateur, Des glaçons comme du verre, publié chez Flammarion. Je la cite, ça a été long avant que l'on comprenne ce qui s'était passé. Encore récemment, mes oncles et tantes se sont questionnés sur ça. Je leur ai dit que c'était un mouvement qui n'était pas responsable et seul dans cette histoire-là. L'écriture expose néanmoins ces vérités qui dérangent et qui ne sont pas encore assez connues, indique l'ethnologue et écrivaine Wendat. Isabelle Picard a aussi écrit une nouvelle plus courte, L'homme aux deux visages, publiée chez Anne Norak, les maisons, Anne Norak, maison d'édition Wendat. Celle-ci s'adresse aux Autochtones sursollicités dans tous les domaines. Elle y livre à travers le personnage d'Émile Bras-Coupé, un auteur en panne d'inspiration, après avoir vécu un succès rapide, une réflexion sociétale intéressante sur la place donnée aux Autochtones, mais aussi une réflexion pour les Autochtones sur ce qu'ils peuvent prendre aussi, précise-t-elle. Donc, deux livres d'Isabelle Picard qui sont sortis dans les dernières semaines, je voulais le souligner, parce que c'est une auteure, une autrice anthropologue très intéressante qu'on entend de temps en temps. Et donc, je voulais compléter avec une nouvelle, une information, une suggestion en lien avec les enjeux autochtones.
Excellent.
Merci, merci. Donc, je pense qu'on arrive tranquillement à la fin de l'émission. Donc, marqueur et atro s'en vient. Donc, tranquillement, à la fin de cette émission, de notre retour après une émission d'absence, il y a deux semaines.
Ben, ça a paru avec le nombre de petits sujets qu'on a essayé de condenser.
Oui, oui, oui.
Tu sais, qu'on avait échappé, là.
Exact.
Puis on a essayé de parler vite.
Ben, on a quand même pas. On était écoutable et compréhensible, Maria, j'espère.
Mais oui.
Mais oui. Non, c'est sûr que c'est un peu la rentrée, agenda chargé, beaucoup d'actualités nationales, internationales, locales. C'est assez intense avec tout ce qui se passe. Donc, ben, c'est ça. C'est la fin de l'émission, donc je rappelle que nous sommes diffusés sur les ondes de Radio Victoria en CB, en Colombie-Britannique, donc à chaque semaine, deux fois par semaine, donc sur les ondes FM. Sinon, ben, vous pouvez nous retrouver sur notre page sur le site de choc.ca, sur notre site internet à nous, où toutes nos émissions sont mises à chaque semaine, à chaque deux semaines, à patriceanonyme.info. À souligner que sur Facebook, c'est beaucoup plus compliqué de mettre les liens vers Choc, donc on vous encourage à aller vers notre site internet pour nous écouter. Notre courriel pour informations, suggestions, commentaires, patriceanonyme@resist.ca. Peut-être vous dire aussi que nous serons là dans deux semaines. Là, on est là pour toute la session, là, jusqu'aux fêtes, hein, Simon, tu l'as dit tantôt. Tu l'as promis à tout le monde.
On a signé notre contrat tantôt.
Notre contrat. Donc, la prochaine émission est le 17 octobre, donc, 2024. Je vais remercier, donc, Simon pour son contenu et pour la mise en onde.
Merci, ça fait plaisir. Merci à toi, Mathieu. Ça
fait plaisir. Merci, Marie-Ève, pour la même chose, le contenu et la mise en onde.
Ben, merci, merci. Merci à toi. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Fidèles auditeurs, auditrices.
Oui, oui, tout à fait, qui nous écoutent en direct ou en balado.
Et pour tes choix, Mathieu, musicaux, très éclectiques.
Très éclectiques, hein?
Oui, ben c'est parce que, attendez le prochain, là.
Oui, oui, c'est pas fini, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est éclectique, c'est varié, puis toutes sortes de choses sont sorties dans les derniers mois intéressantes, mais la musique, hein, c'est infini. Donc, justement, on va se laisser avec le groupe BCUC. Ils viennent pas de Colombie-Britannique, pas toutes. La pièce
c'est pas l'université de
Colombie-Britannique, ouais. La pièce Tongalami, c'est le remix Gadi. C'est un collectif de Soweto, en Afrique du Sud, qui font une musique traditionnelle mélangée avec du jazz, l'électronique, et Marie-Ève, tu disais même du disco.
Du disco psychédélique.
Disco psychédélique, un peu. Ça fait un peu années 70-80 par bout. Leur album, ben, c'est tiré d'un album qui s'appelle, ben, qui est un 10 pouces, qui s'appelle Electronicalizer Dubplate, sorti en décembre dernier, et j'ai eu la chance de les voir gratuitement à l'extérieur à Nuit d'Afrique l'été dernier. C'est un très bon spectacle, c'est un collectif, il y a plein de monde. Donc, on va y aller avec cette pièce-là, puis on vous souhaite une très belle soirée. Puis on se reparle dans deux semaines, donc le 17 octobre.
Bonne soirée.
À bientôt.
Soirée.
Let's go.